22h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, une riposte chinoise qui fait chuter les cours du monde entier. Wall Street clôture dans le rouge, moins 6%. En réponse aux taxes de Donald Trump, Pékin va imposer 34% de droits de douane sur les produits américains dès le 10 avril. Les détails en début de journal. Alors que la Birmanie traverse une grave crise humanitaire, une semaine après le séisme qui a tué plus de 3000 personnes en Birmanie, le chef de la junte militaire birmane s'est rendu à Bangkok pour un sommet économique. Une visite qui ne passe pas, tandis que les secouristes s'activent pour retrouver des survivants. Et puis, dans ce journal, un lanceur d'alerte des crimes du régime de Kadhafi est dans le viseur de la justice libyenne. Samir Cheguara est accusé de possession illégale de documents classifiés. Arrêté puis libéré, il reste sous la menace d'un procès. La Chine riposte et impose 34% de droits de douane sur les produits américains. Et ce, en réponse des taxes imposées par Donald Trump. Une annonce qui a effrayé les bourses mondiales. Wall Street clôture dans le rouge, moins 6%. En France, le CAC 40 perd 4,26%. Pire séance en plus de 3 ans. L'annonce a fait réagir Donald Trump. La Chine a paniqué, estime le président américain. Ce n'est pas du tout l'analyse de l'économiste Philippe Aguigné. Il est chercheur à l'INALCO.
Non, c'est pas la manière dont je décrirais la réaction chinoise qui me paraît au contraire forte, mais il donne pas l'impression de paniquer. À l'inverse, les autorités chinoises font tout ce qu'elles peuvent pour projeter une impression de calme et surtout le fait qu'elles sont prêtes. Ils ont un certain nombre d'armes, des droits de douane supplémentaires, mais il y en a d'autres. Et dans l'annonce d'aujourd'hui, il n'y a pas que les droits de douane. Il y a aussi de nouvelles mesures de contrôle sur l'exportation par la Chine de certaines terres rares, qui sont des métaux qui sont tout à fait critiques, en particulier pour l'électronique. Donc la Chine a sa panoplie. Ben voilà, maintenant, elle sort ses armes. Quand on se prépare à un conflit, à une bagarre, et là, on a la bagarre aujourd'hui, et ben, on prend des otages. Voilà. La Chine ne panique pas, hein, elle calcule.
Et le président de la Fed pointe le risque de déconvenue pour l'économie américaine. Jérôme Powell évoque une plus forte inflation et une croissance ralentie, mais aussi un risque accru pour l'emploi. Aux États-Unis, toujours le licenciement du directeur de la NSA par l'administration Trump fait couler beaucoup d'encre. Selon le New York Times, ce serait l'influenceuse Lara Loomer qui aurait réclamé la tête de Timothy Hogg au président américain. Sur X, l'influenceuse connue pour ses sorties racistes et complotistes a assuré que le directeur de la NSA et son adjointe Wendy Noble avaient été renvoyés en raison de leur déloyauté envers Donald Trump. Colère chez les démocrates, le sénateur Jack Reed s'est dit scandalisé par ce cadeau, je cite, inestimable à la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. RFI, 7h03 à Bangkok, une semaine après le séisme qui a tué plus de 3000 personnes en Birmanie. Les secouristes s'activent pour retrouver des survivants et aider les populations sinistrées. Et pendant ce temps, le chef de la junte militaire birmane, lui, est arrivé dans la capitale thaïlandaise pour le sommet économique BIMSTEC, l'initiative de la baie du Bengale qui rassemble 7 chefs d'État de la région Asie du Sud. Mais ce déplacement est très controversé, correspondance de Carole Izou à Bangkok.
Minong Line, assassin. La banderole était accrochée sur l'un des principaux ponts de Bangkok, sur la rivière Chao Phraya. Quelques dizaines de manifestants venus accueillir le chef de la junte militaire birmane étaient tenus par la police thaïlandaise à bonne distance. Ils reprochent à Minong Line de venir discuter de gros contrats à Bangkok alors que la Birmanie traverse une crise humanitaire majeure. Ils craignent également que le général n'utilise le séisme pour se refaire une image à l'international et se rapprocher de certains dirigeants, comme notamment le premier ministre indien Narendra Modi qui avait fait le déplacement. Alors qu'en Birmanie déjà les soldats de la junte sont accusés de ne pas laisser passer l'aide internationale dans les zones tenues par les rebelles. C'est le cas par exemple de la ville de Sagaing, détruite à 80% au lieu de la résistance de la jeunesse aux militaires. Selon plusieurs témoignages, le cessez-le-feu annoncé le 2 avril au soir n'est pas non plus respecté. Des frappes aériennes à la frontière thaïlandaise auraient fait 3 morts la nuit dernière. Plusieurs organisations internationales ont publié des communiqués rappelant que l'aide humanitaire ne doit pas être utilisée comme une arme de guerre. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
Et Washington annonce ce vendredi l'augmentation de son aide financière vers la Birmanie. Le département d'État américain va ajouter 7 millions de dollars en plus des 2 millions de dollars déjà versés. L'opposition exulte en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol a été destitué. Décision de la Cour constitutionnelle. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Séoul pour fêter la nouvelle. Yoon Suk-yeol avait déclaré la loi martiale en décembre dernier. Une prochaine élection présidentielle anticipée se déroulera sous 60 jours.
RFI, la radio du monde.
Plus de 1,2 million de doses de vaccins pour lutter contre l'épidémie de méningite, c'est ce qu'a reçu le Nigeria ce vendredi. L'épidémie a déjà fait plus de 70 morts et infecté plus de 800 personnes dans le pays. Un lanceur d'alerte des crimes du régime de Muammar Kadhafi dans le viseur de la justice libyenne, Samir Cheguara, est accusé de possession illégale de documents classifiés, des documents qui impliquent directement le beau-frère de Muammar Kadhafi, l'ex chef des services secrets, Abdallah Senoussi. Arrêté le 20 mars dernier, il a été libéré provisoirement, mais reste sous la menace d'un procès. Son éditeur Robert Laffont réclame l'abandon des poursuites. Christina Okello.
Le 20 mars, en plein après-midi, Samir Cheguara est interpellé dans son bureau à Tripoli. Accusé d'atteindre à la sûreté nationale, cet élu local est soupçonné de détenir des documents classifiés. Des archives pourtant déjà rendues publiques en 2018, mais qui ont retrouvé un écho explosif avec l'apparition du livre « L'assassin qu'il fallait sauver », accusant l'ancien régime libyen d'être derrière les attentats de Lockerbie et du vol d'Essaïdis d'UTA. Pour Vincent Nuzzi, l'un des co-auteurs, cette arrestation n'a rien d'anodin.
Nous, on l'interprète comme un souhait de certains en Libye de faire pression sur lui, évidemment, pour le faire taire ou l'empêcher de pouvoir éventuellement continuer de dire ce qu'il a dit et de fournir des documents accusant le régime libyen de Kadhafi de ses attentats.
Parmi ces documents, des éléments qui pourraient servir de preuve à charge contre Abu Aguila Massoud, l'artificier présumé des attentats. Son procès doit s'ouvrir bientôt à Washington et Samir Cheguara devait y témoigner. Une perspective aujourd'hui mise à mal, estime Guillaume Denoir de Saint-Marc, qui a perdu son père dans l'attentat contre le DC-10 d'UTA.
Ça fait 37 ans que nous attendons le procès pénal et donc là, il y a une perspective de pouvoir avoir ce procès. Dans l'affaire du DC-10 d'UTA, il y a 170 morts, dont 99 Africains. Et c'est important qu'on puisse arriver au bout de cette histoire avec un procès contradictoire et que justice puisse enfin passer.
Une audience concernant Samir Cheguara est attendue cette semaine à Tripoli.
Le monde de la musique en deuil après l'annonce du décès d'Amadou Bagayoko. Le guitariste et chanteur malien formait avec sa femme le légendaire duo de musiciens aveugles Amadou et Mariam. Il s'est éteint à Bamako ce vendredi à l'âge de 70 ans. Amadou Bagayoko laisse derrière lui une quinzaine d'albums et un héritage musical unique. L'ensemble de sa carrière raconté sur notre site internet rfi.fr. En France, le Rassemblement National veut afficher un soutien massif à Marine Le Pen dimanche, place Vauban à Paris. La chef du parti d'extrême droite a été reconnue coupable de détournement de fonds publics, condamnée à 4 ans de prison dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. À gauche, la réplique s'organise. Un rassemblement destiné à soutenir la justice et l'état de droit se tiendra bien en parallèle du meeting du RN, place de la République, mais a d'ores et déjà échoué à afficher un front unitaire. Aurélien Devernois.
Ce sera sans les partis socialistes et communistes. L'ultime réunion qui s'est tenue mercredi a acté les divergences stratégiques entre les anciens partenaires du Nouveau Front Populaire. Seuls les insoumis, les écologistes et générations seront donc présents place de la République dimanche. Nous ne voulions pas politiser la défense de la justice et de l'état de droit, argumentent PS et PCF. Les indépendants du groupe Liotte ont aussi décliné, tout comme d'ailleurs les syndicats qui préparent une initiative de leur côté, probablement la semaine prochaine. Il faut dire que les points de désaccord étaient multiples, certains auraient préféré des mobilisations devant les tribunaux de chaque préfecture, d'autres s'inquiétaient d'une faible mobilisation risquant de faire pâle figure face au meeting du Rassemblement National. Côté insoumis, on regrette aussi que la patronne des écologistes, Marine Tondelier, ait appelé à manifester dès mardi, laissant peu de temps pour mobiliser, mais l'absence des socialistes et des communistes est également très politique. Plus question pour eux de s'afficher aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et ses troupes, devenus radioactifs ces derniers mois en raison de leur position sur le Proche-Orient, et qui plus généralement sont accusés de phagocyter ce type d'événement.
Aurélien Devernois, journaliste du service politique d'RFI. RFI bientôt 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.